Petit bidon, mon pépère.
Allez, butez sur Platon.
Oh là 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 là, quelle image.
La joie du pistolero à l'arrivée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On est de retour pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison cycliste et donc on en profite, cette nouvelle saison de Chasse Patate pour suivre le calendrier cycliste qui vient de débuter avec le Tour Down Under et pour ce premier épisode de 2020, j'accueille nos spécialistes du groupe Eto. On commence avec Raphaël. Salut Raphaël.
Salut tout le monde.
Et on est également avec Anselme. Salut Anselme.
Salut, salut.
Et on a le dernier larron, un petit nouveau qu'on accueille avec grand plaisir, Brice. Salut et bienvenue Brice.
Salut à tous, merci de votre accueil.
Eh bien, au programme de ce premier épisode de 2020, donc on va aborder évidemment le Tour Down Under, hein, puisqu'il vient de se terminer il y a quelques jours, remporté par Richie Porte, qui a réussi à ne pas remporter l'étape de Wayunga pour la première fois depuis 2013. On évoquera également rapidement la Tropical Missa Mongo, qui a eu lieu la semaine dernière également, puis quelques petites chroniques, hein, sur le planning des principaux coureurs français sur le cyclocross et on clôturera avec le petit quiz. Allez, sur ça on va commencer tout de suite. Attention à l'attaque, chasse patate, c'est parti. On commence avec donc le Tour Down Under qui a eu lieu la semaine dernière, donc comme je le disais, remporté par Richie Porte, remporté de 22 mètres par l'Australien qui devance Diego Ulissi et Simon Geschke qui d'ailleurs réalise son premier top 10 depuis un bon moment. Alors, ma première question, c'est: est-ce que Richie Porte est intouchable en Australie au Tour Down Under? Est-ce qu'à chaque édition du Tour Down Under, on se dit: ah, il y a Richie Porte, c'est mort?
Bah non, de Wayunga, ouais. Mais enfin, encore cette année, il a été battu, mais pour le général, il l'a gagné que deux fois au final. Gerrans, c'était plus intouchable en quelque sorte.
Ouais, bah, je suis d'accord avec Raphaël là-dessus, c'est que Oka Wayunga, il gagnait tous les ans. Mais il se faisait régulièrement battre au général, notamment les deux dernières années avec Impe qui l'avait grâce au bonif. Et à la rigueur, Impe faisait plus figure de favori cette année que Porte, qui a toujours eu un problème, un petit coup de mou qui l'empêchait de gagner pour 2-3 secondes à chaque fois. Donc là où il a vraiment surprisé, c'est à Wayunga, où il est battu par le jeune Holmes. Matthew Holmes, là. Néo Pro, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, ouais, qui était dans l'échappée, une échappée très
longue. Oui, c'est ça.
Et qui a résisté, il a été le seul à résister donc au retour du peloton en s'accrochant à la roue de Richie Porte dans les tout derniers mètres de Wayunga.
Ouais, parce qu'il fait plus que résister, puisque il est rattrapé, mais s'accroche et le dépose à 200-300 mètres de la ligne.
Et Richie Porte dans Wayunga, faut arriver à le suivre. C'est sûr.
La rigueur, je dirais que Porte, il est imbattable quand il y a à la fois l'arrivée à Paracombe, là où il a gagné avec 5 secondes d'avance sur tout le monde, et l'arrivée à Wayunga, parce que là, ça fait deux arrivées en côte avec un petit peu de pourcentage, et c'était pareil en 2017 quand il avait gagné le Tour Down Under. Quand il y a ces deux arrivées-là, c'est dur de le battre parce que ça fait deux étapes où il est au-dessus de tout le monde. Mais sinon, il se fait battre à chaque fois, en fait.
Bah, ce qui est intéressant avec Richie Porte et le Tour Down Under, on l'a vu cette année sur les deux ascensions finales, il lui suffit de deux attaques seulement pour aller décrocher la victoire finale. Et il y a une stat qui est assez sympa sur Richie Porte, c'est que si on prend l'ensemble de sa carrière, il a 34 ans aujourd'hui, si on prend l'ensemble de sa carrière, il a gagné 23 étapes, hors classement généraux, etc. Il a gagné 23 étapes, dont 8 sur le Tour Down Under, donc ce qui fait un tiers. Donc c'est quand même fort de se dire qu'un tiers de ses victoires ont été remportées en Australie à chaque fois en début de saison. C'est quand même un chiffre qui est assez évocateur.
Bon, on a l'impression qu'en fait, il se prépare plus pour le Down Under que les autres à côté de lui, mais du coup, on a presque l'impression que sa saison en pâtit ensuite, parce qu'il a quand même du mal après à performer autant. À la rigueur, il y a une époque où jusqu'à Paris-Nice, ça allait, mais en dehors de ça, il reste quand même beaucoup plus en retrait sur le reste de la saison.
Bah, bon, en fait,
en 2017, ça allait jusqu'à sa chute dans la descente du Mont du Chat, il battait tout le monde tout le temps.
Bah après, ce qui est vrai, c'est que depuis qu'il est passé à la BMC en 2016, Richie Porte, il nous a habitués à pas mal de bonnes performances. Tour de Romandie, vainqueur et podium, vainqueur du Tour de Suisse, des podiums sur Paris-Nice, etc., notamment même au Dauphiné. Mais en fait, à part ses accessites, même si on peut pas, même si c'est des bons résultats, et ben Richie Porte, depuis quelques années, les saisons se résument à ça. On connaît les résultats sur les grands tours. Ça va jamais être très loin en fin de saison non plus. Donc c'est assez contradictoire ce coureur parce qu'on en attend à chaque fois beaucoup et au final on se met sous la dent. Bah ok, des étapes en Australie, peut-être le général comme cette année en Australie, mais le reste c'est pas forcément très très convaincant quoi.
Est-ce qu'au final le fait de voir Richie Porte surtout performer au Tour de Vendée, est-ce que c'est pas un peu un syndrome des coureurs australiens qui sont très performants chez eux en janvier et pour une partie qui sont moins en vue le reste de l'année? On peut penser par exemple aussi à Jay McCarthy qui a pas mal performé sur le Tour Down Under, sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race et moins sur les autres courses.
Ah, moi j'ai trouvé l'année dernière Jay McCarthy, je l'ai pas trouvé mauvais, j'ai trouvé au contraire bien à l'attaque et plutôt présent. Alors ça n'a pas forcément transformé évidemment, mais plutôt présent sur l'ensemble de la saison. Je le résumerai pas juste à un coureur du Down Under sur la saison passée par exemple.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Brice là-dessus parce qu'il performe globalement, c'est plus un coureur de course d'une semaine qu'un coureur du Tour Down Under parce qu'il brille quand même sur d'autres courses. Mais bon, il va être plus, enfin j'ai envie de dire qu'il est plus spécialisé sur les courses de seconde zone un peu ou de préparation, comme peuvent l'être le Dauphiné, tout ça. À la rigueur, il n'y a que Paris-Nice qui est une grosse course à laquelle il a performé. Et encore, ces dernières années, la plupart des concurrents, de ses concurrents, on va dire grimpeurs, allaient sur Tirreno comme Contador, Quintana, tout ça. Donc c'est peut-être, il va être très bon là où il va cibler ses objectifs, quand les autres sont peut-être un peu moins en forme. Mais dès qu'on va arriver sur du 3 semaines où c'est des courses où tout le monde est en forme, il est plus en retrait.
Et après aussi, justement, là pour Richie Porte, est-ce que là, cette année, il commence à prendre un peu de l'âge, hein, il va avoir 35 ans d'ici quelques jours, le 30 janvier. Est-ce que c'est presque l'année ou jamais pour avoir un dernier bon résultat sur un grand tour?
Ah, il faudrait être un tout petit peu, il faudrait être très optimiste pour se dire que Richie Porte ne sera pas dépassé par la nouvelle génération désormais. La seule chose qu'on pourrait lui souhaiter, ce serait vraiment d'être épargné par les pépins, les chutes, les blessures, pour qu'il arrive à faire au moins une saison complète sans perdre la forme accumulée. En tout cas, moi, c'est ce que je lui souhaiterais de mieux. Mais après, sur la saison qui arrive, je vois pas un Richie Porte qui puisse briller et dominer et les anciens qui ont à peu près son âge et la nouvelle génération qui arrive.
Le truc, c'est que faut savoir ce que c'est un bon résultat sur un grand tour pour Richie Porte. Ça sent qu'il a jamais gagné d'étape et qu'il a que deux top 10. C'est 5e du Tour en 2016 et 7e du Giro 2010 avec grâce à une échappée fleuve. Donc à la rigueur, s'il arrive à faire dixième avec une étape, on peut dire que c'est à la rigueur son grand tour le mieux réussi. Après, ça dépend du coup des attentes qu'on va fixer pour un coureur de son calibre. Après, je pense que pour briller vraiment et monter sur le podium d'un grand tour, il a loupé le coche et je sais même pas s'il en avait les capacités à son époque Sky, qui était, à mon avis, c'est là qu'il avait son meilleur niveau.
Ce qui serait une très bonne saison, à mon sens, pour lui, c'est s'il arrive de nouveau à accrocher des courses d'une semaine, Romandie, Suisse, Paris-Nice, Dauphiné, enfin toutes ces courses d'envergure d'une semaine qui sont très bien réputées et des courses où il a à chaque fois accroché déjà des podiums par le passé. Donc s'il arrive à réitérer ce genre de performance, on peut se dire que c'est une saison qui est plutôt réussie de la part de l'Australien.
Ouais, voilà, je dirais la même chose parce qu'on n'en attend plus grand-chose sur les grands tours de toute façon. Parce que moi, la seule année où j'en attendais vraiment un gros truc, c'était 2017. Et bah, en 2017, il s'est cassé la gueule dans la descente du Mont du Chat. Depuis, j'en attends plus grand-chose sur les grands tours. Et l'année dernière, il fait 11e, je crois, du Tour de France. Il fait 11e. Non, ouais, c'est 10, ça. 11e, c'est ça. Et donc, ça a un peu confirmé ça, quoi. Richie Porte sur les grands tours, bah, c'est pas ça.
Et après, là, pour revenir recentrer un peu sur le Tour Down Under, est-ce qu'on ne serait pas face à une course un peu stéréotypée du fait de l'efficacité en somme de Richie Porte sur le Tour Down Under? On sait que y a les étapes plates qui vont revenir au sprinter et les étapes vallonnées vont revenir à Richie Porte. Quasi automatiquement, j'avais vu, il me semble, Richie Porte quand il a perdu à Willunga, c'était la première fois qu'il était battu sur une arrivée en côte sur le Tour Down Under depuis 2015, il me semble. Donc est-ce que ça après, donne pas aussi une course un peu stéréotypée?
Après, on peut se dire également que ce sera quasiment la dernière fois que ce schéma va se présenter, où Richie Porte est victorieux ou très bien placé sur ses arrivées en côte ou au moins en sommet montant, va-t-on dire. Ça va pas être, c'est voué à s'arrêter. Et je pense que voilà, les années qui vont, ne serait-ce que même la saison 2021 l'année prochaine, voilà, il y a de fortes chances que les cartes soient également rabattues. Il va pas gagner éternellement Richie Porte sur ses ascensions.
Ce que je trouve incroyable, c'est que tous les ans il y a des mecs. Quand il attaque à 1,3 km du sommet, ils essayent de le suivre direct. Genre, ils gèrent pas. Tous les ans, t'as des mecs qui se disent « Ah, je vais essayer de le suivre, je vais le suivre direct quand il attaque et je vais essayer de le suivre jusqu'en haut. » Alors, cette année, il y a Yates, il a essayé de faire ça et je le suis. C'est incroyable, il y a encore des mecs qui font ça. Alors que tous les ans, bah, on sait bien qu'il fait ses 5 minutes en danseuse et puis il pète tous, quoi.
Après, Yates, c'est un autre niveau que Henao, tout ça, des autres années. On parle d'un gars qui a gagné un grand tour, qui a fait lui aussi des démarrages monstrueux sur des côtes bien plus longues. Donc, il est en mesure de penser pouvoir le suivre. Là, il suit pas, il doit pas être au top de sa forme, mais, enfin, il a raison d'essayer, heureusement, parce que sinon, autant ne pas courir l'étape et on laisse Porte partir devant et puis basta, quoi.
Alors, en même temps, il pèse, c'est comme celle qu'il a battu Porte l'an dernier, justement, c'est en suivant pas dans la montée parce qu'il avait de l'avance générale et il finit fort à l'ascension. Bon, cette année, il était moins fort dans la montée, mais c'est comme ça que l'an dernier, il gagne le classement général, il pèse.
C'est vrai que Richie Porte a aussi la faculté, sur cette montée de Willunga Hill, d'attaquer quasiment toujours au même endroit. Il sait où il faut attaquer cette montée, vraiment, il la maîtrise. Et pour ça, c'est assez impressionnant quand même.
Il a gagné également il a pas remporté cette année le record de la montée. Je crois qu'il l'a rabaissé de quelques secondes, 3-4 secondes de mémoire.
Si, ouais, c'est 3 secondes, je crois.
Voilà, 3 secondes. Donc, moi, le premier, je suis assez négatif sur la suite des victoires de Richie Porte sur cette épreuve. Si on se fait un petit peu. Si on me fait l'avocat du diable, il vient quand même juste de baisser de gagner, pardon, d'abaisser le record de temps d'ascension. C'est qu'il en a peut-être encore pas mal sous la chaussette, hein, comme on dit.
Pour parler d'un autre Australien qui s'est mis en valeur sur ce Tour Down Under, en l'occurrence Caleb Ewan, le sprinter de la Lotto Soudal a remporté 2 étapes au sprint. On peut mettre en avant 3 sprinteurs parmi ceux qui étaient présents au départ de la course, donc Caleb Ewan. On a également Sam Bennett qui s'est imposé le premier jour. Et Elia Viviani qui repart les mains vides, mais avec une belle gamelle qui a bien déchiré son maillot de champion d'Europe pour ses premières courses chez Cofidis. Donc on a en quelque sorte des résultats contrastés pour les 3 principaux sprinteurs de ce Tour Down Under. Est-ce que on peut tirer des conclusions de cela?
Bah, déjà, Caleb Ewan, clairement, depuis l'année dernière, il a pris une autre dimension. C'est pas forcément moi un sprinter qui me plaît forcément, mais quand on le voit sprinter au tout début de la saison, il dégage une telle force qu'il est assez impressionnant, en plus par rapport à son gabarit. Donc là, clairement, avec un début de saison comme ça, je pense que ça va être un des sprinteurs à vraiment suivre tout au long de cette saison, parce qu'il risque de scorer pas mal s'il continue sur cette voie-là.
Ouais, je suis d'accord concernant Ewan. Enfin, on est encore reparti pour une grosse saison, même si le Tour d'un Under, évidemment, c'est pas une référence sur laquelle s'appuyer. Et voilà, moi j'attends surtout Caleb Ewan sur les classiques, bah, par exemple Milan-San Remo. Parce qu'il y a 2 ans, quand même, il avait fait un très très gros sprint derrière Nibali. Et sinon, bon, bah, Bennett, il gagne la première étape parce que la De Kooning Quickstep l'emmène vraiment parfaitement, mais les étapes d'après, je les trouvais moins saignants.
Sur l'étape remportée par Giacomo Nizzolo, la cinquième étape, il part de loin, mais il revient très fort. Il prend la troisième place au sprint. Alors Nizzolo gagne surtout grâce à son placement. Mais on a vu que Sam Bennett est revenu comme un boulet de canon.
Ouais, plus que Ewan qui a vraiment été impressionnant pour moi, enfin, c'est Bennett qui a été limite un peu. J'en attendais plus, je l'attendais plus au niveau d'Ewan et plus régulier surtout. Après, moi, enfin, ce que je retiens, c'est aussi c'est Philippe Sen qui finit théoriquement meilleur sprinter avec le classement par points, mais qui a montré quand même une belle régularité. Et donc, moi, je pense que ça peut être la saison, il peut aller chercher une jolie victoire, enfin, une belle grosse victoire, une première vraie victoire qui le placerait parmi. Les top sprinters, parce que Ewan, Bennett, tout ça, maintenant on sait que c'est des sprinters qui font partie du gratin et on en a encore pour quelques années avec eux.
Je suis entièrement d'accord, je voulais absolument le mentionner aussi, Jasper Philipsen, parce qu'il a 21 ans, c'est sa deuxième saison chez l'équipe Emirati UAE. Et là, sa régularité qui lui permet d'obtenir le maillot vert sur cette épreuve du Down Under. Pour moi, l'annonce quelque chose de très bon pour cette saison, voire même celle de la confirmation où il va pouvoir peut-être lever les bras plus souvent que l'année passée. Et ça va être aussi un concours de jeunesse avec les Jacobsen, les Alvaro Odege, voilà, tous ces coureurs-là, je pense qu'ils ont c'est un peu une saison et une année charnière pour eux.
Moi, Philipsen, j'espère que l'équipe UAE pour cette saison ne va pas lui refaire un programme hyper chargé comme l'an dernier, parce que l'an dernier c'était vraiment très 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 chargé pour un gars de 21 ans. J'espère que le programme cette année va être un peu plus light, parce que si Philipsen il retape une saison avec toutes les classiques flandriennes, Milan-San Remo, toutes les classiques après le Tour de France, le Tour de France pas jusqu'au bout mais quand même le Tour de France, pour l'instant, il va pas tenir quoi. Enfin, il est tout jeune quand même.
Pour l'instant, là, ce que je vois pour le programme de Jasper Philipsen, c'est donc les classiques flandriennes, le Het Nieuwsblad, Kuurne, le 3, Gent-Wevelgem, le Tour des Flandres et Roubaix. Et après, en tout cas pour l'instant de prévu, seulement le Tour de Suisse et le Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne qui plaît bien en tout cas aux sprinters d'ailleurs pour l'instant. Donc ouais, ça peut être le signe d'une très bonne saison pour le jeune sprinter belge.
Un autre qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire une bonne saison suite à ses résultats sur le Down Under, c'est Greipel, qui est finalement a retrouvé des jambes et une capacité à faire des sprints en plus au niveau World Tour. Donc, enfin, pour moi, il fallait qu'on en parle. Parce que Arkea, du coup, est-ce qu'ils ont eu la mauvaise année ou est-ce que c'est lui qui est arrivé et qui a fait sa saison en dilettante?
Après, je pense que André Greipel, cette année, ça va être un peu la tête de Turc, j'ai l'impression. Parce que son passage au sein de la Arkea laisse un petit peu sur la fin quasiment tous les suiveurs, et je pense l'équipe Arkea en première. Je pense pas qu'il soit forcément en meilleure forme que l'année dernière, on verra, mais ce qui est sûr, c'est que André Greipel va être largement scruté et le moindre de ses résultats sera forcément comparé à ce qu'il a fait l'année dernière. Voyons, mais c'est vrai qu'en tous les cas, sur cette épreuve, il a quand même montré des dispositions qui n'étaient pas forcément visibles l'année dernière.
Tout à fait, c'est vrai que on va le rappeler, hein, André Greipel, donc, qui a fait deux top 5 au sprint, Alors que si on regarde par exemple sur le Tour de France l'année dernière, son meilleur résultat au sprint c'était une sixième place sur les Champs-Élysées. Voilà. Il y a évidemment une différence en termes de plateau de sprinter entre le Tour Down Under et le Tour de France. Mais ça montre que André Greipel a l'air d'être un petit peu revenu à son niveau, en tout cas de 2018, lorsqu'il était encore chez Lotto-Soudal, au moins.
Et il y a juste un sprinter qu'on pourrait mentionner très rapidement, Giacomo Nizzolo, qui du coup remporte ça depuis qu'il est professionnel, depuis début 2010 ou 2011, sa 22e victoire. Est-ce que ça, c'est une victoire sur le Down Under qui va pouvoir le lancer correctement cette saison, sachant qu'il tâtonne un petit peu depuis, on va dire, 4-5 ans. Je crois que sa dernière bonne saison, c'était en 2016, où il avait scoré pas mal de fois. Voilà, on sait que Giacomo Nizzolo, c'est pas la grande forme ces dernières saisons. Son équipe non plus n'a pas prouvé grand-chose l'année dernière, même s'il a changé de nom. Voilà, c'est peut-être un bon début pour l'Italien.
D'ailleurs, pour ajouter une petite anecdote sur Giacomo Nizzolo, avec sa victoire sur le Tour Down Under, il a gagné donc pour la première fois en World Tour, pour la première fois depuis 2012, c'était sur l'Eneco Tour, et depuis, il a enchaîné 35 podiums en World Tour, c'est le record, assez wow. de loin, parce que si on regarde maintenant le coureur qui a le plus de podiums sans victoire, c'est Wilco Kelderman avec 13 podiums. Donc, on peut dire que c'est très certainement une délivrance aussi pour Giacomo Nizzolo.
Bah, clairement, les chiffres font peur. Hein.
Nizzolo, c'est typiquement le gars placé, mais rarement gagnant. En témoigne ses deux classements par points sur le Giro sans y avoir remporté une seule étape. Enfin, une fois si, mais il a été déclassé pour avoir tassé Modolo, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, c'est un coureur que j'aime bien. Et donc, je suis content de le voir gagner. Après, est-ce que ça va le lancer ou pas? C'est difficile parce que il gagne son étape, surtout parce qu'il fait le bon choix et il se place dans la roue de je ne sais plus qui a emmené.
Robert
et qu'il
Kluge.
A ouais, Kluge, et il a un coéquipier qui derrière fait la cassure. Et il a de la chance parce que contre Sonic est dans sa roue, ne peut pas le remonter. Après, c'est sûr que ça peut lui donner de la confiance pour pourquoi pas passer la marche et le faire gagner plus souvent à l'échelon World Tour. Mais c'est sûr que bah on va attendre de voir, mais je suis pas sûr. Qui gagne énormément cette saison non plus.
Ouais, pour finir sur le Tour Down Under, on va faire un petit point sur les coureurs français. On avait un coureur français assez suivi qui était aligné, c'était Romain Bardet, qui a voulu complètement changer son programme de course. Et ça, je sais, Brice, que tu y reviendras tout à l'heure. Mais ce n'est pas le meilleur français au général de ce Tour Down Under, puisque Romain Bardet a pris la 38e place au général, Clément Chevrier est le meilleur français en 30e position. Est-ce qu'on peut dire que Romain Bardet a été décevant sur ce Tour Down Under?
Romain Bardet, sur ce début de saison, j'ai envie de dire que tout est en ordre de marche. On voit les communiqués sur les réseaux sociaux d'AG2R qui dit que la fin de cette première semaine de compétition a été bénéfique parce que tous les coureurs ont repris le rythme et des sensations de course. On a également lu que le matériel suite au travail cet hiver est plutôt apprécié des coureurs. Il n'y a pas de chute, juste des ennuis mécaniques. Voilà, j'ai envie de dire qu'il est sur sa montée en puissance là, avec la période qui va arriver, les courses italiennes au mois de mars et avril. Il continue sa montée en puissance pour arriver en Giro en forme. Donc pas de conclusion à tirer, il est en ordre de marche.
Oui, Bardet, on n'en attendait rien sur le Tour Down Under. Enfin, je pense que peu de monde en attendait quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut pas dire qu'il a déçu. Donc, tu déçois pas quand tu fais rien et qu'on n'attendait rien au final. On pourrait juste éventuellement émettre une petite déception, c'est que dans la montée de Vinunga, par exemple, quand il voit qu'il n'est pas capable de jouer l'une des trois premières places ou cinq premières, il finit pas à bloc. On pourrait se dire, bon, il est en bloc de préparation, il pourrait faire les montées à bloc jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas non plus un crime qu'il a commis en se relevant dans les 500 derniers mètres.
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec l'idée générale. Il est allé là-bas pour courir en début de saison, profiter d'un temps clément, bien qu'il puisse faire un peu chaud. Mais là où il va falloir l'attendre, c'est à son retour en Europe. Et c'est là qu'on verra s'il est vraiment en forme, quand au Tour du Var, il va s'opposer à une concurrence plus faible un peu, même si les plateaux se relèvent. C'est voir s'il est au niveau, s'il est capable de gagner ou au moins de jouer la gagne. Là, le Down Under, c'était sa reprise tranquille. Et donc, on peut pas être déçu de sa reprise.
Et puis même si le Giro effectivement est au mois de mai, donc les objectifs pour lui sont plus proches que si c'était le Tour de France au mois de juillet, il vient quand même de reprendre mi-janvier, alors que généralement c'est surtout il reprend fin janvier, début février, voire l'année dernière mi-février. Donc, il y a tout un nouveau programme qui se met en place et j'ai très bon espoir que Romain Bardet fasse les choses très consciencieusement et qu'il nous sorte une montée en puissance et un Giro qui nous fera vraiment plaisir.
À présent, on va passer donc à la Tropicale Missabongo qui a ouvert le calendrier africain. La Tropicale Missabongo qui a été remportée cette année par un coureur français, Jordan Levasseur de Natura Forever Roubaix de Métropole, qu'il a emporté grâce aux bonifications sur la toute dernière étape devant Nathael Tesfatsion. On a eu 5 étapes qui ont été remportées par des coureurs africains. Est-ce que la Tropicale Missabongo est une bonne vitrine pour le cyclisme africain?
Cette année, on ne peut pas dire le contraire, quoi, parce que les Africains ont remporté des étapes, ils ont failli remporter le général, enfin, même si après ça reste surtout des Érythréens au final qui brillent. Le cyclisme africain, de toute façon, à part l'Afrique du Sud, le Rwanda et l'Érythrée, c'est quand même encore très peu développé. Et aussi, c'est une bonne vitrine, donc parce que des Africains gagnent des étapes, mais aussi parce que la course a été très sympathique à suivre. Avec la deuxième étape, si je dis pas de bêtises, celle où Tesfatsion prend le maillot de leader, où il y a eu vraiment une course très intéressante avec des gros écarts à l'arrivée. Le lendemain, l'arrivée en côte avec Guirmay qui gagne avec quand même en mettant un bel écart à tout le monde. Puis les étapes d'après où il y a encore eu de l'animation, même la dernière étape c'était assez sympa. Et la course aux bonifications aussi entre Tesfatsion et Levasseur, par exemple, ça c'était vraiment très agréable à suivre. C'est vrai qu'on n'est pas spécialement habitué à avoir une Tropicale Missabongo palpitante, là c'était vraiment très cool.
Donc, je suis assez d'accord là-dessus, sur le fait que cette année, l'Afrique a bien performé. Dans les pays, tu peux rajouter l'Algérie, avec Youssef Regegui qui a enfin gagné son étape et qui globalement performe pas mal. Mais après, est-ce que du coup, je pense qu'on assiste à un fait, c'est que les équipes françaises étaient peut-être moins dominatrices, avaient peut-être envoyé des coureurs un peu moins bons cette année, comparé notamment à l'année dernière. Mais en parallèle, on a évidemment le cyclisme africain qui a quand même des coureurs qui sortent et qui sont meilleurs. Et donc, on arrive à un équilibre qui permet d'avoir une course qui n'est plus totalement dominée par les Européens comme ça pouvait l'être au début de la décennie et avant. Après, il va falloir voir comment, notamment Guirmay, qui a fait des très bonnes performances, là où ça va être intéressant, ça va être voir son retour en Europe et s'il va être capable de garder ce niveau face à une concurrence plus relevée.
Tout à fait. Il sera sur l'étoile de Bessèges dans 2 semaines, donc sur l'étoile de Bessèges, il y aura des garçons comme Trentin, Van Avermaet, il y aura l'équipe NTT avec Boissenagen, par exemple, donc on pourra avoir un aperçu.
Tout à fait, on rappelle que Biniam Guirmay, il va avoir 20 ans cette année, c'est un coureur qui est né en 2000, comme Remco Evenepoel, et il vient de rejoindre cette année l'équipe Nippo Delco Provence. Après aussi, ce qu'on a pu voir sur cette Tropicale Missabongo, c'est que il y avait moins de grosses têtes d'affiche par rapport à l'édition 2019, où on avait eu des victoires de Nicolo Bonifazio ou encore d'André Greipel. Est-ce que avoir moins de têtes d'affiche européennes, ça aide également à mettre en valeur ce cyclisme africain où il faut qu'elle puisse se jauger à des à de coureurs de très bon calibre européens?
Non, je pense que pour que le cyclisme africain continue à se développer, il faut qu'il y ait de la concurrence, notamment européenne. Mais juste pour revenir à la question, est-ce que la Tropical, c'est une bonne vitrine, pour le cyclisme africain? Oui, ça l'est. Après, moi, je suis un tout petit peu plus mitigé par rapport aux coureurs africains en tant que tels qui arrivent dans le monde du peloton professionnel, parce que ça fait quand même une bonne douzaine ou quinzaine d'années qu'on parle de ce cyclisme émergent. Il y a des noms qui sortent. On a parlé des Érythréens, des Rwandais, etc. De là après, à ce que ça convertisse et que ça rivalise sur des courses et des niveaux un petit peu plus élevés, ça capote un petit peu pour le moment. Mais le cyclisme africain, tous les indicateurs sont plutôt au vert quand on parle des investisseurs, notamment le Tour du Rwanda, où on voit que les investisseurs arrivent, investissent. Et juste pour terminer sur le cyclisme africain, les années qui viennent vont peut-être connaître un petit boom, notamment avec la candidature du Rwanda pour accueillir les championnats du monde. Et ça, pour le coup, ce sera pour moi véritablement une vitrine pour le cyclisme africain. Et d'ailleurs, le Rwanda doit rendre son document, son dossier, je crois, ces jours-ci, fin janvier 2020.
Le Rwanda qui pourrait avoir un parcours assez, assez intéressant, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau des images, parce qu'on... On voit bien chaque année sur les réseaux sociaux les images du mur de Kigali sur le Tour du Rwanda avec une foule impressionnante sur le bord des routes. En tout cas, il y a la ferveur, reste à développer le cyclisme professionnel. Je pense qu'on peut conclure en disant cela.
Oui, tout à fait, on peut conclure en disant cela. Et puis surtout, je sais qu'il y a des coureurs, des anciens coureurs comme Luc Leban, Bernard Hinault, etc., qui... sont très optimistes par rapport à ces pays émergents. Voilà, il faut juste que ça convertisse peut-être un petit peu plus au haut niveau, mais il est le temps que les infrastructures se montent et que tout ça se développe. Peut-être qu'on est aussi un peu trop pressé par rapport au temps que ça demande pour mûrir correctement.
Bah, il suffit de voir ce qu'était le cyclisme colombien où les premiers sont arrivés à l'époque de Bernard Hinault et il a fallu du temps pour qu'on arrive avec des coureurs capables et de nombreux coureurs capables d'être performants tout au long de la saison. Et je pense que le processus sera le même pour le cyclisme africain, peut-être sur un temps un peu plus court, mais il faut pas être trop pressé non plus, il faut leur laisser le temps de mûrir.
Justement, ce qui est intéressant avec cette raison, c'est que le cyclisme colombien, les Colombiens sont apparus à l'époque d'Hinault et maintenant ils arrivent tous sur le circuit européen, et finalement, depuis une dizaine d'années, on a plein de Colombiens qui savent briller à peu près partout. Mais ça reste très isolé en Amérique du Sud, à part Carapaz pour l'Équateur. Et justement, je pense qu'avec le cyclisme africain, on risque de se retrouver avec la même chose. Certainement un, deux, peut-être trois pays qui perceront, mais pas plus. Alors moi, je pense que l'Érythrée, c'est le pays qui semble le mieux parti pour l'instant, et le Rwanda, pas mal aussi.
Ouais, en Afrique, il y a eu l'Afrique du Sud longtemps, mais là, c'est vrai qu'on risque d'avoir des pays moteurs. Et le problème de l'Afrique, c'est comme avec l'Amérique du Sud, c'est que c'est des pays pauvres et tout le monde n'a pas accès forcément au vélo ou pouvoir se développer. Donc, après, là où l'Afrique a un avantage, c'est qu'elle. Enfin, je sais pas si NTT est toujours sous bannière africaine, mais pendant longtemps, elle a eu une équipe africaine en World Tour, et donc ça aide à promouvoir le cyclisme à plus grande échelle.
Tout à fait, donc il faudra voir si on a une structure qui peut faire le parallèle et faire le lien entre le cyclisme africain au niveau continental et le cyclisme plus international avec le World Tour, comme avait pu le faire un petit peu MTN QBK, puis devenu Dimension Data avec son équipe réserve, tout à fait. On passe donc à présent aux petites chroniques, la petite nouveauté de cette saison 2020 de Chasse Patate. On va commencer avec la chronique de Brice. Alors toi Brice, tu as voulu revenir sur le programme des principaux coureurs français. Romain Bardet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure sur le Tour Down Under. Ces principaux coureurs français qui ont fait le choix du changement.
La saison 2020 va offrir à coup sûr des courses excitantes pour nos trois leaders français sur les grands tours, que ce soit Romain Bardet, Thibaut Pinot ou encore Arnaud Démare. Alors pourquoi excitantes ? parce que ces coureurs à l'entrée de cette nouvelle décennie bouleversent leurs habitudes et ils en ont sans doute besoin. Tiens, prenons Romain Bardet. Exit le Dauphiné, Paris-Nice ou encore le Tour de France. C'est une saison qui va être riche en découvertes avec des premières fois, comme sur le Tour Down Under ou alors le Giro, et des deuxièmes fois, Tirreno Adriatico, Strade Bianche ou encore la Vuelta. C'est un pari très alléchant de la part de Romain Bardet. Concernant Thibaut Pinot, idem. Exit Tirreno Adriatico, le Tour de l'Ain, le Tour de Romandie ou encore le Tour de Catalogne. Le contour de sa saison, on le sait bien, se dessine autour des courses qu'il connaît bien, comme le Tour du Pays Basque, le Dauphiné et évidemment le Tour de France en juillet prochain. Mais il intègre cependant des nouveautés intéressantes avec Paris-Nice et le triptyque des Ardennaises. Et un coureur de son standing, il se doit de défier ses classiques mythiques. Et enfin, ne pas oublier le sprinteur Arnaud Démare. Exit Paris-Nice pour aller découvrir les Émirats Arabes Unis avec l'UAE Tour. Et il renouera effectivement avec Tirreno Adriatico après plus de 6 ans d'absence. Le traditionnel bloc des courses flandriennes l'emmènera sur le Giro avant effectivement de découvrir la Vuelta dans le but d'intégrer le cercle hyper prestigieux des coureurs ayant levé les bras sur les 3 grands tours. En somme, on observe bien que nos leaders bousculent leurs plans et leurs routines et à l'aube de leurs 30 ans, plus ou moins évidemment, l'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique à leur carrière afin de concrétiser enfin toutes les belles victoires qui leur ont parfois fait défaut. Et enfin, la question qu'on pourrait tous se poser, nous les suiveurs de cyclisme, est-ce que ces nouveaux challenges proposés par nos leaders français en 2020 ne vont pas être également bénéfiques pour casser notre routine ?
Pour rester dans l'actualité, le début de saison sur route est également la fin de la saison de cyclocross. Et on retrouve notre consultant spécial cyclocross, Johan. Alors, Johan, le week-end prochain, il y aura les championnats du monde de cyclocross. Mathieu Van Der Poel est le tenant du titre chez les coureurs élite hommes. Est-ce qu'il peut être battu ?
Salut les gars. Alors, la question, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut être battu au championnat du monde de cyclocross ? Eh ben, non. Mais en fait, non. Il y a tellement de marge entre lui et le reste du peloton actuellement que c'est difficile d'imaginer autre chose, quoi. Surtout que dans les dernières interviews, le Gus est en train de dire qu'il a enfin retrouvé son meilleur niveau, qu'il est à 100%. Vu le circuit qui s'annonce dimanche à Dubendorf avec un truc bien plat, bien roulant, bien rapide, Dubendorf qui est en Suisse pour ceux qui ne voient pas, c'est quand même dur d'imaginer autre chose qu'un Mathieu Van Der Poel qui finisse tout seul avec une minute d'avance sur tout le monde, quoi. La seule, on peut toujours imaginer sérieusement improbable, genre, la tempête, j'en sais rien, mais c'est quand même dur à imaginer, quoi. Mais je pense que la question, encore plus que la domination de Mathieu Van Der Poel sur les prochains championnats du monde, ça va être est-ce que les Pays-Bas vont pas faire un cumul intégral avec les victoires sur toutes les catégories, quoi. Parce que cette année, ce qui est vraiment marquant dans la saison de cyclocross, c'est le recul de la Belgique face aux Pays-Bas. Alors certes, il y a Toenaerts qui a gagné la Coupe du Monde, et il y a Lise Zorbit qui va probablement gagner le DVV Trophy, donc qui est le deuxième challenge belge, mais même sur le Super Prestige, qui est le challenge de référence pour les Belges, avec, on se souvient, les multiples victoires de Sven Nys, il y a toujours Lars van der Haar et Corné van Kessel qui peuvent aller bouffer Laurens Wick et Lise Zorbit au général, quoi. C'est pas génial pour le côté belge, surtout qu'il y a eu les retraits de Van Aert, du coup, avec ses blessures cette année, et une Saint-Nécante qui était très en retrait chez Féminine. Ce que ça a fait, c'est que non seulement chez les Féminines, où il y a eu une écrasante majorité de la part des Pays-Bas, mais aussi chez les Masculins, où il y a quand même beaucoup de coureurs néerlandais qui ont bien marché, et pourtant il y a un Joris Novo-Nuis qui a été décevant, ça fait que la Belgique, cette année, c'est un peu la tristesse au cyclocross, et ça risque de se retrouver ce dimanche au championnat du monde, avec potentiellement 6 titres pour les Pays-Bas. La seule catégorie, c'est quand même assez incertain, ça reste la catégorie junior, où la meilleure chance, c'est Tibor Del Grosso, rien que le nom déjà, ça ne vaut pas du rêve, quoi. Et en face de lui, il y a quand même Thibaut Nys, donc fils de Sven Nys, qui a écrasé la saison en junior, qui a eu seulement 3 défaites, et il y a aussi l'autre favori qui est suisse Dario Hilo, donc là c'est un peu dur d'imaginer un Irlandais qui va gagner. Mais dans les autres catégories, c'est nickel, quoi. Entre, il y a Ryan Camp qui est en espoir homme, qui a gagné 4 dernières courses internationales, il y a Manon Becker et Inge van der Linden qui a tourné du titre aussi en espoir. Et après, il y a les juniors féminines, donc il y a Shirin Van Anrooij qui cumule les top 10 dans les élites en Coupe du Monde, alors qu'il est junior. Enfin, on sent encore comme une grosse pépite celle-là, de côté néerlandais. Puis après, en élite femme, c'est juste l'orgie, quoi, entre Brandt, Wurst et Alvarado. Enfin, il y a des bonnes chances qu'il y ait un podium complètement néerlandais, quoi. Et puis forcément, chez les hommes, Mathieu Van Der Poel, on ne fera pas une seule seconde qui va être battu. Donc là, de se retrouver ce dimanche au championnat du monde, du slow cross, avec vraiment un déluge de médailles pour les Pays-Bas. une Belgique qui est vraiment très en retrait, et qui est en retrait non seulement face aux Pays-Bas, mais même dans les autres catégories, parce que quand on voit par exemple, chez les Espoirs, au final, ceux qui ont marqué l'année, c'est quoi? C'est Kevin Kuhn, c'est Antoine Benoît, c'est Thomas Meyn. C'est toujours pas des Belges, quoi. Et chez les jeunes Belges, il n'y a que Thibaut Nice, homme et femme, qui s'annonce comme une grosse pépite, quoi. Donc ça risque d'être compliqué, la Belgique, les prochaines années en cyclo-cross, s'ils ne ressortent pas un gros talent. Sinon, il y aura toujours le contingent belge avec les équipes belges qui montera. Mais franchement, les Pays-Bas prennent vraiment de l'ampleur en cyclo-cross cette année. Ça va être très marquant, je pense, au dimanche au championnat du monde. Et puis sinon, si on peut parler des chances françaises, on a quand même deux belles chances de titre ce dimanche. Donc avec les espoirs, Marion Lambert-Ribeirol chez les dames qui finit très fort la saison, alors qu'en face d'elle, il y a des Hanaké ou des Inge van der Heijden qui s'annonçaient plus favoris qu'elle au départ, mais qui finissent un peu sur les rotules. Et chez les espoirs hommes, avec Antoine Benoît, forcément, même si il y a Ryan Camp qui est très fort en ce moment et qu'il faut se méfier d'un Kevin Kuhn et d'un Thomas Meyn. Et puis même chez les juniors, donc côté français, donc que ce soit chez les femmes où Lynn Burke devrait repartir avec une médaille normalement, mais elle risque de finir troisième, elle va devenir néerlandaise, ou chez les espoirs, les juniors hommes, où on a vraiment de belles chances de médaille avec Hugo Nani, Rémi Landais ou Florian Richard Andrade, vu qu'il y a un niveau qui est très homogène et que ça risque de faire comme un Uruguay de ce dernier dimanche, avec des écarts très resserrés, donc ça peut toujours quelque chose d'intéressant qui peut arriver. Par contre, chez les élites en France, ça va être compliqué. D'un côté, du coup, chez les femmes, il y a Caroline Mani qui peut peut-être taper un top 5, top 10 selon sa forme, parce qu'elle finit pas mal la saison, mais c'est quand même compliqué. Et chez les élites hommes, par contre, là, c'est à débattre, quoi. S'il y a un top 15 de Steve Chenel ou Daniel, ce sera déjà très 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 bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu le bilan qu'on peut faire pour les championnats du monde de cyclo-cross s'annonce, qui devrait être représentatif de ce qu'on a eu cette saison. Avec ceux qui ont commencé la saison à pleine balle comme les Orbit, ça va être compliqué de continuer à tenir ce rythme. Mais après, voilà, on peut essayer d'imaginer des choses intéressantes, mais je pense que ça devrait être un triomphe néerlandais pour ce dimanche.
Et bien voilà, on arrive donc à la fin de ce podcast. Et qui dit fin de Chasse-Patate dit petit quiz préparé par notre ami Darth Minardi sur le forum, avec des questions toujours très relevées. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour ces petites questions?
Ah, carrément. J'ai même un peu peur.
Et tu vas voir, il y a de quoi. On va commencer avec le Tour Down Under, qui était le sujet principal de cette émission. Est-ce que vous savez en l'honneur de qui et pourquoi a été créé le Tour Down Under?
Moi, il me semblait que c'était, ça avait un rapport avec Stuart O'Grady, mais je suis pas sûr du tout. Et pour promouvoir, j'aurais dit le cyclisme australien, mais ça semble trop facile comme réponse.
Alors, tu as raison pour Stuart O'Grady, tout à fait. Et alors, pourquoi Stuart O'Grady en particulier? Donc, on va rappeler que le Tour Down Under a été créé en 1999. Et pourquoi? Parce que, comme ça, ça a pris aux organisateurs ou le coureur australien a fait quelque chose de particulier à un moment de sa carrière?
Il n'aurait pas été le premier Australien à porter le maillot jaune?
Non, puisque ça, c'était Phil Anderson. Mais sur le Tour 98, en effet, il a porté le maillot jaune plusieurs journées. Donc, c'est ça qui a motivé les organisateurs du Tour Down Under, je vais y arriver, à créer la course. Et tiens, il y a un seul coureur français qui a remporté le Tour Down Under. Est-ce que vous connaîtriez son nom?
Gilles Ménian, non?
Gilles Ménian, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
2000?
Ouais, j'aurais dit 2000.
Alors, c'est parfait.
80... j'allais dire 98, donc 2000.
Et non, puisque le Tour Down Under a été créé en 99.
Et bah voilà.
Et donc Gilles Ménian a été le deuxième vainqueur de la course après Stuart O'Grady, comme quoi les choses sont bien faites dans la vie. On va à présent passer au cyclocross pour suivre un petit peu la chronique de Johan. Cyclocross, donc on va le rappeler avec les championnats du monde de cyclocross le week-end prochain. Et on va partir en 2002. Quel futur vainqueur du Tour de France a participé cette année-là, donc en 2002, au championnat du monde de cyclocross junior?
C'est pas Andy Schleck?
Mais vous savez tout! C'est formidable! Andy Schleck, tout à fait. C'est assez atypique, mais en effet, Andy Schleck, donc,
Andy,
qui a fait du cyclocross et qui a participé au championnat du monde junior de cyclocross en 2002 et qui a terminé 35e. Comme quoi, ne pas réussir sur le cyclocross ne veut pas dire que l'on ne réussira pas sur la route.
Ouais, ça, c'est bien des questions de tarse. Ça a des anecdotes sur des mecs que tout le monde connaît, mais personne connaît l'anecdote.
Voilà. Comme quoi, on peut en apprendre des choses grâce à Darf.
Heureusement.
Et enfin, dernière petite question, on reste sur le cyclocross. Et là, je pense que je vais peut-être vous poser une colle. Excepté Zdeněk Štybar, à quand remonte le dernier champion du monde de cyclocross qui ne soit ni belge ni néerlandais?
Renato Longo?
Je vous demande une année, donc pas forcément un coureur, mais
Hein?
en tout cas, c'était même pas Renato Longo.
Ah, 1974.
Non, plus récent que ça.
Ah ouais.
Bah, je dirais plus récent. 80-90, je pense. On va dire 92.
Plus proche, c'était en 1997, donc ça remonte quand même un petit peu. C'était Daniele Pontoni qui s'était imposé cette année-là. Alors, vous auriez été un petit peu pointillé sur la question, vous auriez pu me répondre 2015 avec Pauline Ferrand-Prévot. Puisque techniquement, c'est elle la dernière non belge, ni belge ni néerlandaise à s'être imposée sur les championnats du monde de cyclocross.
Ouais, mais il y a vraiment une domination des Belges et Néerlandais en cyclocross, c'est impressionnant.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Ouais,
C'est
ça.
la discipline du Benelux, des Belges et des néerlandais.
Encore le week-end dernier avec le cyclocross tracé par Adrie Van Der Poel, remporté par Mathieu Van Der Poel. On voyait encore ce public et toutes les infrastructures autour, les immenses tentes, les immenses barnums, les buvettes, etc., qui sont montées lors de ces épreuves. C'est vraiment quelque chose à vivre et à faire, hein, connaître cette ambiance en cyclocross.
Ça c'est sûr, c'est une ambiance tout à fait à part et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très fort quand même quand on voit le public amassé sur les cyclocross belges, sur les manches de Coupe du Monde, de Super Prestige, des VV Trophy, c'est impressionnant.
On n'avait pas eu un Français champion du monde avec Dominique Arnoux
Tout à
dans
fait.
les années 90, 96, si je ne me trompe
93,
pas.
93, Dominique Arnoux.
93, d'accord.
Et au passage, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le tout premier championnat du monde de cyclocross masculin a sacré en français, c'était en 1950, c'était à Paris, et c'était Jean Robic.
Jean Romic. Eh ben, on aura appris des choses hein, dans ce podcast.
Ouais.
En effet, on en aura appris des choses dans ce podcast, mais il touche à sa fin, car toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau numéro de Chasse-Patate. On va se retrouver c'est régulièrement tout au long de l'année avec tous nos chroniqueurs et nos consultants. D'ici là, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les différents réseaux sociaux du groupe Eto, que ce soit Instagram, Twitter ou encore Facebook, mais aussi sur le site et le forum, legroupeeto.fr. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt!
À très vite, au revoir.
Salut!